Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence sur le thème croiser et multiplier. Comme vous le savez tous, après une évolution très lente pendant plusieurs millénaires, la population mondiale est passée de 1 milliard à 7 milliards d'individus en l'espace de 2 siècles. Les prévisions pour 2050 sont à 9 milliards. Donc c'est un sujet qui inquiète beaucoup, qui a été notamment relayé beaucoup dans la science-fiction. Et pour en parler aujourd'hui, nous accueillons donc 3 autrices et auteurs de science-fiction française, ou du moins francophone. Donc à ma gauche directement, Jeanne Adéba.
Debats. J'ai fait des tutoriels sur Internet, ça marche pas. Oui, voilà.
Et à sa gauche, Elisabeth Von Arberg. Et à sa gauche encore, Laurent Gennefort. Donc, Jeanne Debats, vous êtes autrice de science-fiction, mais également professeure de littérature. Vous êtes notamment connue pour vos romans La vieille anglaise et le continent, ou encore Plaguers, ou votre série Le cycle de Navarre, dont L'héritière, Alouette et Humaine, trop humaine, publiée en 2017 aux éditions Actu SF. Elisabeth Von Arberg, vous êtes anciennement professeure de littérature également, écrivaine à temps plein aujourd'hui. Vous avez été animatrice, vous êtes animatrice radio également, et connue pour vos romans Le silence de la cité et Chronique au pays des mers majoritairement. Votre dernier roman, La Voix des Roses, est le second tome d'une trilogie de fantasy uchronique des Pierres et des Roses, publiée en octobre 2018 aux éditions À Lire.
Le troisième est à la librairie.
Le troisième est à la librairie, merci bien. C'est gentil de préciser, je n'avais pas l'info.
Non, mais tout est à la librairie.
Même ceux qui ne sont pas encore écrits.
Non, pas encore.
Et Laurent Gennefort, donc vous êtes également auteur de science-fiction, notamment spécialisé dans le space opéra. Vous avez publié notamment la série Omal, qui est peut-être celle pour laquelle vous êtes le plus connu, et vous venez de publier également le troisième tome de Spire, Ce qui révèle, qui est également en librairie, je suppose. Alors pour commencer, je précise peut-être aussi, pour le sujet qui nous concerne, vous venez d'écrire également un article sur la surpopulation, qui se nomme Une fiction de l'Anthropocène, qui est un commentaire du roman de T.G. Bass, Humanité et demi, qui est publié dans un recueil, Variations sur l'histoire de l'humanité. Donc peut-être pour commencer, on pourrait évoquer un film récent qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Seven Sisters, et qui met en scène un futur d'hyperpopulation mondiale. On se retrouve en 2073 et le gouvernement américain a instauré une politique de l'enfant unique pour laquelle toute infraction est sévèrement punie par le bureau d'allocation des ressources, des naissances, excusez-moi, bureau d'allocation des naissances, drastiquement appliqué d'ailleurs. Est-ce que vous pensez peut-être, Jeanne, est-ce que vous pensez que c'est une politique qui est envisageable ou souhaitable dans l'état actuel des choses en France ou dans le monde ?
Alors, je dirais que pragmatiquement, ce serait souhaitable d'arriver à ce que nous décroissions, mais philosophiquement, il m'est impossible d'envisager de me mettre, même légalement, en travers de la vie d'un autre individu et de sa vie reproductive. Personnellement, j'ai contribué à la décroissance en faisant 2 enfants avec 2 autres hommes, donc du coup... c'est pas dit comme ça. Je l'ai mal dit, mais vous avez compris. J'ai 2 pères pour mes 2 enfants, ce qui fait que, du coup, ils n'auront pas 2 enfants, eux. Voilà. Et du coup, moi, oui. Donc, 3, on en a fait 2, on décroît. D'accord. Et avec mon compagnon qui a fait exactement le même truc de l'autre côté, mais exactement le même, nous arrivons à 6 et 4 enfants. Donc nous décroissons dans ma famille. Mais ça n'est pas le résultat d'un choix délibéré, ça s'est fait comme ça. Voilà. Au passage, je pense qu'il est très dangereux de légiférer sur l'interdiction dans ce genre de domaine. Là, notre monde a tendance à plutôt permettre aux gens de se reproduire, quel que soit leur genre et quelles que soient leurs affinités avec le monde. Et c'est, quelque part, c'est une bonne chose. C'est absolument une bonne chose. Donc, interdire... Enfin, je n'arrive pas à l'envisager, ça. Viscéralement, ça m'est impossible. Cela étant, dans la science-fiction, comme d'ailleurs dans la réalité, c'est quelque chose qui a été très, très relié. Par exemple, je pense à la stratégie Ender de Orson Scott Card, où il y a exactement la même situation, où Ender se retrouve le troisième enfant alors qu'on n'en autorise que deux. Et ça, c'est vraiment un thème qui est revenu. Mais on a aussi l'inverse. Dans l'Esther Del Rey, le 11e commandement, qui est croisé et multiplié, qui est le titre de cette table ronde, au contraire, on empêche les gens d'avorter.
Je sens que j'ai envie de prendre des positions impopulaires, ne serait-ce que par esprit de contradiction.
Vas-y, vas-y, amusons-nous. Bon,
alors, puisqu'on préface avec croissons-nous nous-mêmes, non, moi je ne crois pas du tout. Donc, de ce point de vue-là, je me sens en sécurité. Tout le monde sait que la Chine a fait ça, n'est-ce pas ? Avec un succès relatif. Ça prend donc un pays à gouvernement totalitaire. Le résultat pour les filles a été épouvantable, puisqu'on voulait absolument des garçons. C'est une question de culture, bon, d'accord. Mais là, moi, personnellement, parce qu'enfin, bon, j'ai des opinions, et c'est ce dont nous parlons ici essentiellement, j'ai des opinions comme tout le monde sur la table du café du commerce, je pense qu'on en arrive très vite à la situation de triage. Dans tous les domaines. Et même si légiférer sur l'enfant unique n'est pas forcément une bonne solution et peut avoir des conséquences perverses et mortelles, il faudrait peut-être y arriver avant 2070. Parce que la surpopulation plus la surconsommation néo-whatever, libérale, capitale, kleptocratique, enfin bon, whatever, et le problème climato-environnemental, ça fait un peu beaucoup pour la planète. Alors voilà, c'est mon opinion et je la partage.
Donc, c'est une crainte d'ailleurs que vous venez d'exprimer, Isabelle von Arberg, qui ressort notamment dans beaucoup de romans de science-fiction, comme Tous à Zanzibar, de John Brunner ou Soleil Vert. C'est la peur d'un désastre écologique à venir. Est-ce, dans ce cas-là, anti-écologique de faire des enfants ?
Il faut que je sois cohérente avec moi-même, oui. Oui, la politique des deux enfants est déjà trop. On ne peut pas. Il faut décroître parce que les gens auront plus de deux enfants. Si on leur en donne un, ils en auront peut-être deux, mais pas tout le monde. Puis enfin, la répartition des enfants, c'est comme la répartition des ressources. Il y a l'adoption. Bah oui, tout à l'heure, on disait le ministère l'allocation des ressources. Et vous avez corrigé en disant de l'allocation des enfants. J'ai pensé, mais c'est la même chose. Après tout, le ventre des femmes est une ressource. Excusez-moi. C'est ainsi que ça a été considéré depuis...
C'est toujours considéré
comme une ressource partout. Donc, oui, c'est ça. Et que, environnementalement, oui, c'est pas vraiment bon d'avoir beaucoup d'enfants.
Ah, mais je suis totalement d'accord avec Elisabeth là, sur ce point-là. Juste, elle est plus courageuse que moi. Elle prend la décision philosophique que je n'arrive pas à prendre.
Dans votre commentaire, Laurent Genefort, de Humanité et demi, la fourmilière qui caractérise la population dans ce roman, délivre des permis de naissance selon le statut de l'individu et de ses actions. Est-ce que faire des enfants pourrait devenir, selon vous, un privilège de certains par rapport à d'autres ?
Concrètement, je ne sais pas du tout, ça dépendra du système politique dans lequel on est, parce que là, on parle strictement politique. Maintenant, pour faire un enfant, il faut juste un homme et une femme, c'est ce qu'il y a de plus économique pour produire, justement. Si on parle de ressources, là, c'est une ressource qui coûte rien à la base, qui apporte plutôt même du plaisir, on va dire. Mais en tout cas, pour le côté, pour rebondir sur ce que tu disais, on croit par an, la population mondiale croit par an de 89 millions de personnes. Donc, si on soustrait même la mortalité, les gens qui meurent, on a un solde positif de 89 millions par an, et ça ne fait que croître. Je veux dire, dans quelques années, ce sera 90 millions par an, etc., etc. Et je ne vois pas comment, à l'heure actuelle, quand on compte par exemple que la Deuxième Guerre mondiale a fait dans les 50 millions de morts, c'est-à-dire qu'il faudrait une guerre mondiale et demie par an juste pour stabiliser la population à 7 milliards. Donc moi, j'y crois pas. Enfin, c'est quelque chose... On va vers une surpopulation croissante. Ce que fait... Pour donner une idée en fait, c'est le temps que va durer cette table ronde, il y aura 10 000 individus de plus sur la Terre. Sachant pour donner un comparatif qu'il y a 3 000 tigres, il n'y a plus que 3 000 tigres dans le monde. Vous voyez un peu, on va devenir l'espèce qui, si on met bout à bout tous les humains, bientôt il y aura plus d'humains que la majorité des espèces de mammifères mis bout à bout en fait.
Oui, c'est-à-dire
qu'on va devenir l'espèce majeure qui aura absolument tout envahi.
Mais pas les insectes et les bactéries quand même.
Non, quand même pas. Donc pour moi, par exemple, ça fait plusieurs années que je considère que les espèces en voie de disparition sont déjà éteintes. En fait. Tant qu'une espèce ne... Et les espèces, pour moi, une espèce menacée est par définition éteinte. Et dans la mesure où la survie des espèces sauvages dépend du bon vouloir humain, c'est-à-dire grosso modo de politique, c'est-à-dire des réserves animales, par exemple ce qu'est en train de faire... Trump, c'est déclassifier des réserves. Donc voilà, si le sort des espèces dépend d'un vote, du vote de personnes en fonction de critères économiques, etc. Les espèces sont, moi j'estime qu'elles ont déjà disparu en fait. Donc pour moi, on est déjà dans l'anthropocène est consommé d'une certaine manière. Ce qu'a fait T.J. Bass dans Humanité et demie, qui est un bouquin qui date de 70 quand même. Hein. Le bouquin était quand même
Club de Rome,
absolument visionnaire, j'ai trouvé. C'est de montrer, d'abord, il cassait une sorte de mythe qui veut que, en tout cas un discours, qui veut que si la nature disparaît, on disparaît. On ne survivra pas à la fin des espèces sauvages. Ben, non, pourquoi en fait ?
Les abeilles quand même.
Oui, mais...
On dépend quand même pas mal de la pollinisation.
Oui, mais pas toutes les espèces, d'abord.
Si tu manges de la spiruline tous les jours, tu n'as pas besoin des abeilles.
Oui, mais pour polliniser les plantes qu'on mange. Ah bon, on mangera plus de plantes.
Eh non.
Ah bah youpi.
On mangera de la merde, mais on mangera.
Oui, voilà, exactement. Non, je pense que si on sera probablement la dernière espèce à disparaître. Donc, moi, je ne crois pas je pense qu'on est dans une sorte de pensée magique qui dit que, de toute façon, la nature s'en remettra ou on disparaîtra avant, en fait. Non, pas du tout. Il y a des exemples historiques qui montrent que on peut détruire totalement notre habitat.
On peut même se le manger nous-mêmes, sur la fin. Soleil vert, le
raconte. Oui, non, mais attends. Il y a des exemples historiques dont auxquels. Oui, mais, ils n'avaient pas le type de société que nous avons. Ils n'avaient pas l'universalité du type de société que nous avons en général. Tu penses aux Mayas, tu penses à l'île de Pâques, tu penses... Bon. Mais quand je parlais des insectes, j'avais comme, qui dirait, une arrière-pensée, et des bactéries, c'est qu'on n'a pas besoin d'une bonne guerre. On a juste besoin d'une bonne pandémie, de quelques petites pandémies à répétition, et ça ferait déjà un petit trou.
Bah, comme je disais tout à l'heure, sur le fait qu'il faudrait une guerre mondiale et demie par an pour juste stabiliser. Oui, il faudrait une pandémie, mais je veux dire, il n'y a que dans les histoires de zombies où on a une fin de l'humanité qui arrive en quelques mois ayant décimé 7 milliards, quasiment 7 milliards d'individus. Il n'y a pas de maladie capable de faire ça aujourd'hui, en fait.
Non, mais pas encore.
Non, ça, c'est pas possible parce que les virus capables de tuer des gens rapidement en 24 heures sont des virus à mauvaise stratégie.
Oui.
Et donc, ils ont une très mauvaise diffusion puisqu'ils tuent l'hôte avant qu'il ait eu le temps d'infecter les autres. Donc, pour qu'on arrive à un Ebola mondial,
non.
Il va falloir qu'il devienne plus futé, Ebola.
Mais c'est pas du tout à l'Ebola que je pensais. Oui, évidemment, le virus qui tue tout de suite son hôte. Bon. Non, mais il y a des maladies bien plus sournoises, beaucoup plus lentes.
C'est la mort de l'humanité.
Et comment dire, c'est pas nécessaire d'imaginer qu'on disparaît en quelques mois. On peut s'éteindre avec un soupir sur un certain nombre d'années, parce qu'enfin, quand tu as des pandémies, même des pandémies de grippe, des vraies pandémies de grippe là, qui mettent à terre 70% de la population, ben, c'est autant de gens qui ne travaillent pas, c'est autant de gens qui n'agricolent pas, c'est autant de ressources dont on ne dispose plus, ça fout le bordel dans les communications, ça déstabilise petit à petit, et il y a des gens qui meurent. Avec un peu de chance, il y en a 70% qui meurent. Non, enfin bon. Non, mais là, on est vraiment gays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Non, mais on est en train de prévoir ou de planifier la fin des trois quarts de l'humanité.
C'est sympa. Et par ailleurs, Jeanne, tu as dit par deux fois impossible et possible. Et je trouve extrêmement étrange dans un débat qui porte essentiellement sur des trucs de futur et de science-fiction qu'on utilise encore les mots possible et impossible. Oh, mais c'est juste une parenthèse.
Si tu espères que j'ai la précision des mots à cette heure-là après la soirée d'hier soir, là, c'est de la science-fiction.
Ouais, d'accord.
Pure et simple. Il y a une blague que j'avais envie de faire tout à l'heure et que je vais faire maintenant. D'après ce que tu disais, Laurent, tu disais que toute espèce en voie de disparition, tu la considérais comme déjà disparue. Et alors, nous, est-ce qu'on est déjà disparu, en fait ?
Mais non, au contraire. On n'a jamais autant... prospérer que depuis qu'on extermine toutes les autres espèces. Donc non, en fait, on est une espèce qui est à très, très forte croissance, qui se porte très bien, qui lutte justement contre... En fait, c'est ça aussi, peut-être quand on parle justement d'hyperpopulation, c'est un terme qui est intéressant. Parce que quand on parle de surpopulation, on parle de... comme si on était encore dans les écosystèmes, dans la biosphère, comme étant une part animale, un animal comme les autres. Dire qu'on peut atteindre un statut d'hyperpopulation, on n'est pas dans un déséquilibre, on est dans un nouvel équilibre qui est un état très élevé de population, mais en fait qui est stable. C'est-à-dire ça reflète bien le fait qu'on est sorti de la nature et qu'on peut se maintenir en dépit du... On devrait normalement, si on devait réellement chasser pour se nourrir, réellement se procurer de la nourriture, chacun individuellement, c'est clair qu'on décroisserait assez vite. Le fait est que non, on est maintenu artificiellement dans la biosphère, de la même manière que les chats, par exemple, nos animaux domestiques comme les chats sont maintenus artificiellement parce qu'on leur donne des croquettes, et donc ce qui leur permet de ravager les oiseaux et la nature environnement.
Ne dis pas du mal des chats.
Non, mais moi j'adore les chats, bien sûr.
Ils ne ravagent pas forcément, non.
Si, ils ravagent. Ils ravagent, c'est-à-dire qu'ils tuent des. Ils devraient être là. Alors qu'ils sont là alors qu'ils ne devraient pas l'être en nombre aussi important pour chasser. C'est pour ça que je suis au-delà de ce genre de considération, on va dire, de réseaux sociaux. Quand j'avais mis ça sur un réseau social, j'avais eu 40 mamies qui m'avaient dit « Ah, en fait, t'es un chasseur déguisé, tu viens... » Mais non, c'est juste un point de vue scientifique.
Mais
quoi.
Un Illuminati anti-chat,
Non, pas du complot anti-chat, mais non, pas du tout.
Mais Laurent, tu parlais de humanité de mi, de basse, en disant qu'il a, que son, sa prémisse, c'est nous faisons partie de la nature, et si on démolit la nature, pouf, on démolit l'humanité.
Alors lui, il cassait ce mythe-là.
Oui, oui, il cassait ce mythe-là. Mais est-ce que c'est prouvé qu'on peut, est-ce que c'est prouvé scientifiquement qu'on peut exister sans l'environnement physique non... Enfin, l'environnement physique naturel, disons. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ?
Alors, prouvé scientifiquement, il faut observer, comment dire ? Non.
Parce que nous sommes une expérience qui n'a encore jamais vraiment eu lieu. Tu parlais historiquement des sociétés qui, mais dans la nôtre, on n'a pas d'exemple encore d'un endroit où ça se soit passé. Parce que si ça se passe, ça se passera à l'échelle mondiale.
Bah, moi, ce que je parle, c'est d'un contre-discours. On est dans un contre-discours qui est de dire non, pourquoi croire automatiquement que ça répondait.
Oui.
Ça répond à un discours qui est si on extermine les espèces sauvages, la biodiversité, les effondrements des écosystèmes vont automatiquement... conduire à l'extermination de la race humaine.
Bon, mais y a pas
c'était un contre-discours par rapport à ça. Maintenant, est-ce que ça s'est prouvé ? Non.
Non, parce qu'il y a peut-être une position médiane qui serait de dire il y a un pourcentage X de la biosphère que nous pouvons nous permettre de démolir, et au-delà de ce pourcentage X, là, il y a un effet d'entraînement, et là, on y passe.
Je ne sais pas, mais en tout cas, nous,
on est dans les hypothèses de
collectivement, on vit de l'élevage et de l'agriculture intensive.
Mm-hmm.
L'agriculture intensive et l'élevage se passent et passent par l'appropriation de territoires sauvages et donc de l'extermination de la faune et de la flore sauvage.
Mm-hmm.
Humanité et demie, c'est une terre future, dans un très lointain futur, où les hommes, qui sont plutôt des post-humains d'ailleurs, puisque l'évolution a été contrôlée et maintenant l'humanité mesure à peu près 1m40, vit dans les sous-sols, n'a plus que 4 orteils et 4 doigts, et donc c'est une sorte de post-humanité. Et elle vit dans des sortes de termitières pour laisser la surface qui est devenue un seul et immense champ de céréales. Donc c'est une sorte un peu de vision fantasmée de l'agriculture intensive, en fait. Mm-hmm. Et tout ce qui a été... toute la nature, la nature sauvage a été considérée comme nuisible et donc exterminée. Donc il n'y a plus que... ça n'est plus qu'un immense champ de blé. Il faut le prendre comme une métaphore, évidemment. Mais alors d'abord, l'auteur était un biologiste. Et quand même, il a des solides connaissances et ça se sent, quand même. Donc c'est assez quand même convaincant, ce qu'il dit. Mais voilà, en fait, ça et la population qui décrit fait à peu près 3000 milliards de post-humains, ce qu'il appelle les néchifs. Voilà.
Alors, ça me fait penser à un système, un micro-écosystème qu'on a découvert il y a pas longtemps dans un bunker quelque part en Pologne, dans les pays de l'Est.
L'histoire des fourmis.
L'histoire des fourmis, c'est une fourmilière sans reine. Parce que, en fait, les fourmis tombent dans un trou dont elles ne peuvent pas ressortir et elles créent, sans une reine, une nouvelle fourmilière qui ne survit que par l'apport de nouveaux individus au fur et à mesure. Et en fait, ils se mangent plus ou moins eux-mêmes tout en s'organisant et en créant des champignons sur leurs propres cadavres. C'est assez abominable. Hein. Voilà un beau futur que je nous prévois. Mais toujours est-il qu'on est dans un environnement où, certes, il y a un intrant, qui est les nouveaux individus, à chaque fois. Mais c'est un système extrêmement pauvre, mais qui roule. Et je pense qu'effectivement, même si ce n'est pas souhaitable, et ce n'est pas ce que tu dis, effectivement, il y a tout un tas de solutions qui permettraient à l'humanité de survivre au moins un certain temps, sans l'apport de la biosphère qui l'aura massacrée juste avant. Mais tu n'as pas dit que c'était souhaitable.
Non,
la solution soleil-vert en est une. Hein. Nous pouvons nous dévorer nous-mêmes à la fin.
Oui, non, mais la science-fiction, elle a imaginé plein de solutions, toutes plus horribles les unes que les autres, hein, ça c'est clair. Il y a eu les éco-dictatures avec le contrôle des naissances, que la Chine a mis en place. Hein, mais ça a marché quand même, en fait, hein, malgré ce qu'on peut dire. En fait, ça a quand même marché.
Oui, comme je disais, avec des conséquences horribles.
Voilà, il y a eu le cannibalisme à la Soleil Vert, qui est un truc assez, finalement, qui est intéressant, je trouve. Ça nécessite de modifier notre morale un peu, on va dire. Mais pourquoi pas, je dirais. Non, mais je veux dire, j'avais lu un bouquin quand j'étais ado, je ne me rappelle plus du titre, je n'ai pas retrouvé l'auteur, qui était, je crois que c'était dans un Présence du futur des années 70, je crois que c'était un auteur russe, où il imaginait une société cannibale, mais où vraiment, ne pas être cannibale, c'est profondément immoral. Parce qu'on n'est pas dans le cycle. Donc il y a un fest, quand quelqu'un meurt, toute la famille se réunit, il mange le défunt, et qui est une façon de réincorporer la mémoire ancestrale dans l'histoire familiale et tout. Et c'est très positif, en fait.
Bah c'était le rôle du cannibalisme rituel, enfin, d'une certaine façon.
Voilà, et c'est à la sauce moderne, mais oui. Bon, alors faudrait quand même twister. Puis ça a quand même des. Je veux dire, c'est aussi, ça pose des problèmes. Faut bien le cuisiner quand même.
Oui, parce que sinon, il y a Crochel Jacob qui arrive derrière.
Voilà, faut quand même faire ça dans les règles, sinon. Mais c'est vrai que le reste fonctionne pas tellement. La fuite dans l'espace, qui a été, on a un exemple avec Lost in Space, mais voilà, il y a eu plein de trucs. Bon, ça marche pas, parce qu'on sait le transport spatial et le coût du transport spatial est trop élevé. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros par kilo mis en orbite haute. Donc on ne peut pas déplacer des populations outre-Terre. D'abord, on ne sait pas où elles iraient, mais on ne peut de toute façon pas, même si Mars était terraformé, déplacer des populations et suffisamment de millions d'individus, c'est-à-dire de centaines de millions, voire de milliards, pour dépeupler la Terre un peu, ne fonctionnerait pas. Donc l'option spatiale ne fonctionne pas, faut régler le problème localement.
Et contrairement à ce que raconte Andy Weir dans Seul sur Mars, il est douteux qu'on arrive à nourrir des gens avec des patates sur Mars grâce à l'intrant des matières fécales du monsieur. C'est potentiellement, c'est très séduisant d'un point de vue.
Oui, c'est pas les mêmes bactéries, en fait. Il y avait un problème, voilà. Pour le coup, biologique, là, en fait.
Bah oui. Mais pour l'instant, si je me rappelle bien, on est à 28 jours de survie sur un module martien, en comptant les vivres, l'air. Etc.
Alors le bouquin était plus malin, quand même,
que le
film.
Que le film, oui.
Parce que là, il récupère l'eau dans les combinaisons et tout. Il y avait quelques trucs plutôt bien trouvés, j'ai trouvé.
Ah non, mais j'aime beaucoup le truc, mais c'est séduisant. Mais c'est de l'ASF, on a le droit.
Oui.
Alors là, on est extrêmement pessimiste depuis le début de cette conférence. Peut-être que pour éviter que le public reparte avec...
avec l'envie de se suicider et de décroître la population mondiale.
Ou reparte tout court, directement.
Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être envisager des solutions? Vous, Jeanne Adebatz, vous dites que c'est difficile de mettre au point un système de limitation des naissances. Quelle solution s'offre à nous à part ça?
Comme je disais, ça m'est difficile de prendre une décision philosophique là-dessus. Donc, je ne vais pas la prendre. Hein, là, pour le coup, effectivement, la seule solution va nous arriver sur le poil parce qu'on ne va pas pouvoir prendre la décision philosophique. Parce qu'on va être lâche comme je suis et on va attendre, effectivement, à mon avis, et là, je vais continuer à être pessimiste. Hein, je suis vraiment désolée, Jeanne. Je pense, effectivement, qu'on va se prendre une ou deux guerres, deux ou trois pandémies, qu'on va laisser crever une partie des continents... qu'on va continuer à pomper jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Enfin, voilà. Moi, c'est ça ma prospective. Et je n'arrive pas à trouver de solution, sauf, je sais pas, les extraterrestres débarquent et nous enseignent l'harmonie universelle. C'est bien fou. Il y a quelqu'un qui aimerait poser une question là-bas. Peut-être que... C'est un peu tôt, mais après tout.
Oui. J'arrive.
Je vais rebondir sur ce que tu...
Oui, alors en fait c'est pour savoir justement par rapport à l'évolution de la démographie humaine, on a vu que s'il y avait un pic monstrueux depuis 100-200 ans, mais il n'y aurait pas la possibilité que ça s'arrête à un moment tout simplement, Parce que quand on voit l'évolution de notre civilisation moderne, d'Europe de l'Est et tout ça, on voit bien que la démographie n'arrête pas de baisser. Donc certes, mondialement, la population continue de grandir, mais quand tous les pays ont fini leur changement démographique, je pense que l'évolution humaine va se stabiliser, la quantité de population va se stabiliser, pas à 7 milliards, mais plus du côté des 10 milliards, en fait.
En fait, il y a eu ce discours-là alors qu'on était 3 milliards. Des gens qui disent, ouais, mais de toute façon, il y aura des pics et puis ça va stabiliser à 5, puis à 6, puis à 7. Là, on est à 10. Moi, je n'y crois pas du tout. C'est à ça.
Puis l'échelle temporelle aussi.
C'est
est-ce qu'on a le temps
d'attendre
que ça décroisse naturellement?
Je crois pas. Mais je ne sais pas si c'est le problème, en fait. Le problème de la surpopulation, elle est dans son impact. Si ce qu'il faut diminuer, ce n'est pas forcément la population, c'est l'impact qu'elle a sur de destruction de l'environnement. C'est juste ça, en fait. Et là, pour le coup, c'est toutes les solutions écologiques qu'on peut trouver pour réduire l'impact de l'homme sur la nature et d'aller plus vite dans la réduction de l'impact que l'accroissement de population, c'est ça en fait.
C'est ça
la course. La course, elle est là et on est en train de la perdre. Là, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose pour la limiter. Maintenant, où ce qui se passe ne concerne qu'un tout petit pourcentage de la population, c'est-à-dire nous, grosso modo, l'Europe, les États-Unis, mais on ne représente pas grand-chose en fait en réalité, en termes de population. Mais notre impact est absolument terrifiant quoi, par rapport au niveau pollution. S'il y a des solutions à adopter et qui sont pas encore adoptées, c'est d'utiliser. Pour moi, je trouve que c'est une voie d'utiliser l'IA et le big data pour contrôler ce qu'on consomme. Et finalement, pour le moment, tous les algorithmes, Google, Amazon, tous les GAFA qui contrôlent nos comportements, le contrôle de nos comportements vise à consommer plus et à consommer de façon plus ciblée et davantage. On peut imaginer un mode de société où le big data, donc le traitement des données massives, mais ciblées au niveau individuel, aboutissent à dont le but sera de non pas de nous faire consommer plus, mais de nous faire consommer moins en fait.
Ça implique un changement politique.
Oui, politique, économique.
Économique, c'est ça, oui. Bah,
donc politique,
oui. Politique,
oui. Oui, tout à fait.
Le pouvoir est au bout du fusil. Non.
Non. S'il te plaît. Et de mentalité, parce que finalement, socialement, tout est fait pour encourager le fait d'avoir des enfants. Mais tout, y compris l'aspect religieux de nos sociétés, où on refuse l'avortement, on refuse le port du préservatif, la pilule, ses limites. Et dans des tas de pays émergents, l'influence de l'Église est telle que tout ça, c'est à peine accessible.
C'est ce qui explique pourquoi aussi... L'Afrique va connaître son pic dans les 20 ans qui viennent. C'est aussi pour ça. Ouais. Il n'y a pas de contre-discours à ce niveau-là. Ouais.
C'était juste un ajout. Hein, là.
Mais encore une fois, on n'a pas de leçon à donner parce que c'est nous qui avons collectivement amené le monde au bord de la faillite. On peut, comme tu disais, moralement, on n'a aucune légitimité pour le faire. Ni légitimité, ni même, d'abord le pouvoir de le faire. Et puis tant mieux, d'ailleurs, oui, tout à fait. Donc tout ce qu'on peut proposer, c'est des modèles de société, en fait.
Moi, je refuse.
Ou d'adopter des modèles de société qui existent déjà, mais qui ne sont pas ni bien médiatisés, ni promus. Mais c'est parce que c'est des modèles qui sont contre-productifs par rapport à nos modèles à nous. Quoi.
C'est sûr que je refuse d'envisager un monde où la sphère occidentale a le pouvoir de décider qui a le droit de naître et pas.
Oui.
Et pourtant, c'est déjà quelque part le cas, puisqu'on contrôle une majorité de ressources, mais qu'on ait le vrai pouvoir de faire ça, ça me fait juste froid dans le dos.
D'une certaine façon, on l'a, parce que j'étais en train de me dire, paradoxalement, réduire la mortalité infantile dans les pays, entre guillemets, en voie de développement, depuis le temps qu'ils sont en voie de développement, ils devraient être développés, ce serait une façon de réduire la population, parce que une grande partie de ces populations ont des enfants parce qu'ils ont besoin d'enfants pour se soutenir, soutenir les parents, faire faire marcher l'économie, etc., même à un niveau relativement, disons, archaïque ou primitif. Ou whatever.
Ou microéconomique.
Oui, en microéconomie, c'est ça. Forcément archaïque. Alors que s'ils étaient sûrs que les enfants qu'ils font vont survivre, ils en feraient moins. Mais bon...
En tout cas, c'est quelque chose qu'on a constaté dans toutes les autres...
Oui, c'est ça. C'est ça, faire monter. Mais sauf que faire monter le niveau de vie, voilà. Hein, c'est leur faire suivre un modèle de développement de type occidentalo-destructeur. Et bon, voilà. On est revenu à la case précédente. Mmh. Je voulais juste signaler une autre petite parenthèse. Tu parlais de l'arrivée des extraterrestres qui pourraient nous sauver. Sans aller chercher les extraterrestres, il y a quand même des possibilités de réduire la population, ou du moins certaines populations, d'une façon relativement radicale, ou peut-être même carrément la population. Il y a des phénomènes naturels, des catastrophes naturelles. Si par exemple, moi mon préféré, c'est le dézippage de la caldeira de Yellowstone. On a un super volcan... à Yellowstone, qui fait plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres carrés. Alors, si ce machin explose, youpi, d'abord, la moitié de l'Amérique passe au bat, passe à la poubelle. Nous, au Canada, on ne sera pas tellement mieux. Et puis, alors, après, hiver nucléaire, enfin, hiver... machin, les températures baissent, enfin ça c'est un phénomène qui a beaucoup joué dans la disparition de certaines, et on commence à penser qu'il a joué systématiquement dans la disparition de toutes les bancs. Elles n'ont pas seulement détruit leur environnement s'est détruit tout seul. Alors on peut toujours espérer qu'il y ait un volcanisme généralisé sur la Terre, youpi.
J'ai une solution pour toi, Jeannette, je viens d'y penser là. Il y a un truc rigolo, c'est qu'on est en train de s'empoisonner, en fait, avec tous les... je ne sais plus comment ça s'appelle, là, les machins... là.
Le plastique.
Les perturbateurs endocriniens.
Bah, c'est ça, oui.
Là, le sperme masculin, notamment, est en train de perdre en nombre et en activité. Au niveau occidental, en tout cas, on est de moins en moins fertile.
On est encore un animal biologique.
Chez les hommes, d'après ce que j'ai compris. Je ne suis pas sûre que ce phénomène touche les femmes au niveau ovarien, en tout cas. Donc, du coup, il pourrait qu'on se retrouve tous stériles, ça pourrait être rigolo, ça serait une façon de régler le problème. Bah, sans toucher à la philosophie.
Ça a été envisagé aussi.
C'est une solution très lâche, hein, d'accord.
Non, mais ça a été envisagé dans la science-fiction.
Oui, bah je, oui, oui,
personnellement.
Bon. Vous-même, non, vous l'envisagez.
Voilà, mais c'était là comme solution, si tu veux, si je te proposais ça. Celle-là, elle me plaît bien.
Oui, c'est effectivement ça. J'étais en train de dire à Laurent, en aparté, que c'est peut-être un mécanisme de régulation que nous avons, dont nous ignorons que nous l'avons. Nous nous empoisonnons et donc nous sommes moins fertiles, sans aller jusqu'à la stérilité. Et que c'est peut-être un événement d'équilibre. Et il me dit non, parce qu'on est sorti de la nature. Moi, je suis pas sûre, étant une femme, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sûre que nous sommes sortis déjà de la nature. Nous sommes encore constitués de chair et de machin et de bactéries. Nous sommes l'expression des bactéries et de nos gènes.
Mais je veux dire, pas au niveau, comment dire ? Nous ne sommes plus des animaux au sens où, quand on tombe malade, on a des technologies pour nous soigner. Ce que n'ont pas les animaux. Quand on a libéré des perturbateurs endocriniens dans la nature, il y a eu quelques populations humaines touchées, mais les plus touchées, c'était les animaux. Et eux, ils n'avaient pas de docteurs et de choses pour se régler la situation. Nous, c'est en ça où on est sortis de la nature. C'est-à-dire que quand une population a faim, elle peut importer de la nourriture. Un animal ne peut pas se faire livrer par la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge. On n'est plus dépendant des éléments et des voilà. Les animaux le sont et ça, on est la seule espèce. Et c'est pour ça que je dis, on est sorti de la nature parce qu'on a pu à obéir. On n'obéit plus aux lois de la nature. Collectivement, j'entends. Ça ne veut pas dire que des épidémies n'existent plus. Mais ça veut dire que...
Ou que les famines n'existent plus. Il y en a une en ce moment.
On a des antibiotiques. Ça veut dire qu'on a de la nourriture alors qu'on n'a pas à la chasser. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça suffit pour être sorti des règles de la nature de base, quoi, tout simplement.
J'aurais dû appeler cette
non,
table
y a quelque chose,
décroissée
y a quelque chose
de, et divisée.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Excuse-moi, Jeanne.
Je disais, j'aurais dû appeler cette table ronde décroissée et divisée. Parce que là, le futur qu'on est en train de prévoir à tout le monde est abominable. Vas-y, Elisabeth.
Non, vas-y, absolument.
Non, mais c'était juste ça. Voilà, je dis, à toi.
Non, mais j'ai l'impression, il y a quelque chose dans ton argument, Laurent, qui me paraît, il y a quelque chose de mauvaise foi quelque part là-dedans, en anglais disingenuous. Qu'on soit sorti de la nature, oui, nous sommes un animal de la nature, etc. Mais on n'en est pas complètement sorti. C'est pas vrai. Nous sommes encore un corps de chair qui est encore, qui vieillit, qui est malade, qui peut encore mourir avant son heure. Et de ce point de vue-là, on n'est pas sorti de la nature. Non, je suis désolée. Non, on n'est pas sorti de la nature. Pas totalement. Pas si totalement qu'il n'y ait pas encore la possibilité, dans la part de nature qui nous reste, d'un mécanisme de compensation qui joue. Je veux pas être optimiste. Je veux juste qu'on reste dans le domaine du possible, parce que j'ai l'impression que tu es aussi radical que lorsque Jeanne dit possible, impossible. Il y a du flou quelque part. On est encore suffisamment flou dans notre partie naturelle pour qu'il y ait encore quelque chose qui joue là. La partie n'est pas peut-être totalement jouée. Ça y est, me voilà optimiste tout d'un coup. Oh
oui, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est nouveau ça.
Ben non, c'est juste que il y a des balanciers dans
non, mais
mon,
on
dans
est,
mon humeur.
On est très créatif hein. dans la technique du furet dans le poulailler. Il y a Jean-Pierre Andrevon qui imagine que pour maintenir la population française à 60 millions de consommateurs, le gouvernement a instauré les furets, qui sont un corps de fonctionnaires qui est chargé de désigner les... Enfin, on leur désigne, c'est un ordinateur qui fait ça, qui désigne les personnes qui doivent mourir pour maintenir à 60 millions pile la population française. Et donc il se pointe, il sonne chez vous, il vous donne un truc, voilà, vous avez été désigné. Donc alors c'est fait très proprement, et voilà. Donc ça, et ce qui est rigolo, c'est que cette idée a été réimaginée par un manga japonais qui s'appelle Ikigami et qui reprend exactement la même idée. Alors, il a un peu affiné, c'est-à-dire que chaque citoyen japonais, au moment de sa majorité, je crois, reçoit une injection avec une sorte de micro-bombe, qui se fixe quelque part. Et si la loterie tombe sur lui, il est voilà. Et on le prévient 24 heures à l'avance pour régler ses affaires en cours.
C'est sympa, ça.
Oui, c'est sympa.
Voilà.
J'achète.
Les Japonais sont très polis. Ils font ça dans les règles. Alors que Jean-Pierre Andrevon, c'est un peu plus sale, de temps en temps, quand même.
Alors, il y a un jeune Français qui a écrit une nouvelle l'année dernière pour le concours de nouvelles des Utopiales. Jeune Français qui a été lauréat du concours des jeunes, et qui, dans l'anthologie jeunesse des Utopiales, développe la même idée. Sauf que lui, le grand maître de la sécurité sociale, en fait, désigne les gens qui doivent mourir parce qu'ils vont... En fait, ils vont coûter trop cher. Donc, ils sont malades, ils sont mourants, paf, on les tue. Sauf que, finalement, c'est pas si net que ça. Il y a des gens en bonne santé qui meurent, et donc, c'est pas normal. Donc, il y a quelqu'un qui cherche comment sont désignés ceux à mourir, etc.
C'est ce qui se passe aussi dans la technique du furet, où le personnage va découvrir qu'en réalité, bizarrement, il y a plus d'opposants politiques qui meurent statistiquement. Voilà.
Ils ont de mauvais numéros.
Voilà, mais ça, c'est bien du Andrevon, ça.
Mais là, c'était la pandémie, c'était la stérilité, c'était un peu ta solution, Elisabeth.
Oui, dans Chronique du Pays des Mers, il y a un virus tricheur qui fuck avec la fertilité, enfin qui bousille la fertilité aussi bien masculine que féminine. Mais ce sont des démonstrations, enfin ce sont des cas d'école, ce sont des cas en laboratoire là, parce que imaginez ça justement dans une société post-apocalypse où les ressources sont limitées, où il y a plus beaucoup de monde et c'est très bon. Là, c'est de la triche. Là, on est là pour essayer d'imaginer ce qui se passe. Maintenant, moi ça j'ai écrit ça dans les années, j'ai pensé à cette histoire-là à la fin des années 70, donc j'étais encore Club de Rome, etc. Là maintenant c'est rendu nettement plus grave.
Mais Soleil Vert, c'est aussi un film des années 70.
Ouais.
Pendant des années, je n'ai pas pu le passer à mes élèves parce qu'ils s'en foutaient complètement. ne voyais pas du tout l'intérêt. Et il y a 2 ans, j'ai recommencé et je les ai scotchés avec Soleil Vert. Et ils m'ont tous dit, mais c'est demain, ça.
Mais c'est vrai qu'en fait, ça, la, comment dire, la proximité du... C'est un peu comme le thème des robots ou de l'IA. À l'époque d'Asimov, c'était vraiment quelque chose de purement spéculatif et un jeu logique, quoi. Mm-hmm. Et maintenant que c'est en train d'arriver, on se pose réellement les questions éthiques
de
par rapport aux machines.
Et là,
c'est un peu pareil. Mm-hmm. Et c'est vrai, par exemple, pendant des années, il y a eu la ville à la campagne, c'est formidable et tout. On se rend compte à quel point c'est une catastrophe écologique, la ville à la campagne. Mm-hmm. Et on recommence à penser à des tours, à des grandes tours, à des monades urbaines pour réduire l'impact sur l'environnement. Donc ça change, parce qu'on est au pied du mur maintenant, clairement.
Peut-être que le public aussi a quelques questions à poser à ce sujet-là, des questionnements éthiques qui se posent aussi. Je ne sais pas où sont les micros.
Là, il y avait une main là-bas, juste en face de moi, là. Levez-vous.
Mais c'est agréable de voir qu'il y a de la surpopulation, même dans le public, parce que je vois qu'il y a plein de monde debout.
Par ici, j'ai une question. Les discussions, notamment sur la fertilité, m'ont fait penser à un exemple jeu vidéo. Je pense à la trilogie de science-fiction Mass Effect, où à un moment donné, on a une espèce très très belliqueuse et avec un très très fort taux de reproduction. Et pour mettre fin à la guerre intergalactique, on va dire, une alliance interespèce décide de développer un virus qui va rendre l'espèce fertile. Infertile, pardon, oui. Et plus loin dans le jeu, c'est un peu au joueur de décider si oui ou non on va guérir l'espèce de ce virus-là. Donc ce qui conduit à ça dans cet univers-là, c'est la guerre, c'est la destruction possible que va infliger cette espèce. Ouais. Qu'est-ce qui, sur Terre, pourrait mener à une décision mondiale autour des sujets de fertilité ?
Une qualité que la race humaine en tant qu'espèce n'a pas, la raison.
Ce serait peut-être pas une décision au niveau mondial. Il y en aurait. Je crois que c'est ce dont on parlait tout à l'heure et dont Jeanne disait qu'elle préfère ne pas imaginer. C'est-à-dire que les puissants de l'heure décideront pour les autres. Et ça, c'est discutable. Sauf si on est en situation de triage. Bon, après, donc, le club de Rome, c'était 70, 80, 90.
Tu pourrais nous expliquer ce que c'est le club de Rome ?
Le club de Rome, s'il te plaît. C'est les gens qui. Un ensemble de scientifiques qui ont fait une belle grande conférence dans les années 70 et qui ont émis un rapport disant tout ça, illustrant ce dont nous. Enfin, prédisant, prévoyant. Hypothétisant ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et ça a fait un gros splash dans les années 70. Et les années 70, c'est aussi le moment où la science-fiction a commencé à se tourner, enfin c'était la fin des années 60, la science-fiction commençait à se tourner vers notre planète. Il y avait une nouvelle, de Kagan, qui s'appelait « Occupez-vous de la Terre d'abord » ou quelque chose du genre, où on s'est détourné un peu de l'espace pour dire « Bon, on pourrait peut-être s'occuper de la planète d'abord. Bon. » Alors ça a beaucoup marqué les générations de l'époque, dont la mienne. Et donc ça fait 50 ans, presque 50 ans, et le club de Rome avait dit ça. Bon.
Oui, il y a la bombe P de Paul Ehrlich aussi, Ehrlich qui a inauguré sans la bombe P, il y aurait pas eu tout à Zanzibar, il y aurait pas eu Soleil Vert, il y aurait pas eu cette vague de romans sur la surpopulation. Et effectivement, moi j'ai cherché avant et c'est un thème qui date de ce bouquin-là en fait. Avant, je n'ai pas trouvé trace de problématique de surpopulation dans un texte de science-fiction pré 1968, en fait. C'est un thème qui n'existait quasiment pas.
C'était quoi le film d'Elisabeth ?
De quoi est-ce que je parlais quand on m'a rudement interrompu pour me demander des précisions sur le club d'Europe ?
Oui, quelqu'un s'en souvient ?
Ah oui, j'allais dire... Non, je n'allais pas dire. Quelqu'un d'autre.
Ça va être un mystère total, cette histoire.
Il y avait une question au milieu aussi.
Donc, puisque là on parle du sort de l'humanité, je pense que la priorité, ça n'a pas plutôt d'avoir une politique qui est concentrée sur les humains plutôt que sur la préservation de l'environnement. Parce que là, on a deux priorités. Et logiquement, en tant qu'humain, notre devoir, c'est plutôt de s'occuper d'abord des humains. Du coup, quitte à avoir de l'impact sur l'environnement, tant qu'on sait que ces impacts-là n'ont pas un retour négatif sur nous-mêmes, on pourra se permettre des modifications de la biodiversité tant que ça ne va pas retourner contre nous, en fait. Ah. Et donc, on pourra mettre en place un environnement meilleur pour les humains, plus adapté avec les technologies actuelles.
Bah, en fait, les humains d'abord, on est dans ça depuis 2000 ans, et c'est aussi ce qui... Enfin, il faudrait peut-être justement changer ça, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un état de société où l'animal ne vaut rien. Je veux dire, intrinsèquement, un animal n'a aucune valeur, en fait. La vie d'un animal, ou d'un végétal, encore pire, j'allais dire, mais en fait, ne vaut rien. Littéralement, quoi. Le fait de, d'abord, ce sont des meubles, alors même si ça a évolué, ce sont des êtres sensibles maintenant, mais ça reste, il leur reste à leur attribuer justement une valeur. Et de dire, ah oui, mais occupons-nous d'abord de l'humain, c'est comme si l'humain pouvait, dans votre question, ça implique que l'humain puisse vivre tout seul, justement. Non, ça implique, dans votre question, mais justement, il faudrait justement décentrer l'homme. Et il manque cette révolution copernicienne de décentrement de l'homme par rapport à l'environnement. Il faudrait au contraire dire que non, justement, l'homme est dans un environnement. Et on manque, je trouve, au niveau éducatif, de notions d'écologie de base. C'est quoi un écosystème ?
Mais tu disais pas qu'on était sortis de la nature, hein ?
Oui, tout à fait. Ouais. Mais oui, on est sortis de la nature, mais ça ne veut pas dire que la nature n'existe pas. C'est justement, il faudrait la réintroduire, en fait.
Il me semble qu'il y a un petit...
Mais je crois, effectivement, je crois qu'il y a un contresens quand tu dis... on est sortis de la nature en tant qu'espèce, pas au niveau, pas en tant qu'individu. On continue de mourir, d'avoir besoin de se nourrir. Je ne dis pas qu'on n'a plus besoin de se nourrir, qu'on est immortel. Je dis qu'en tant qu'espèce, on n'est plus tributaire des lois de la nature.
Ah, ok.
Les lois de la nature au sens de...
Dit comme ça, je le prends. Okay.
Mais on meurt toujours, il n'y a pas de problème. Nous sommes sur la même planète.
Et Laurent ne dit pas que c'est bien.
Non, pas du tout.
Il constate.
Je sais.
Bonjour.
Nous sommes d'accord.
Finalement. Allons tous nous suicider en cœur.
Bonjour.
Ah non, je préfère aller boire. Mais...
Bonjour, j'avais une remarque, parce que du coup, là, on a beaucoup parlé de comment réduire la population. Et je me demandais si, enfin, finalement, ça a été un petit peu évoqué par vous, Laurent Genefort, à la fin. Mais je trouve qu'un point central, c'est surtout comment on peut vivre sans être idiot et sans s'autodétruire et sans surconsommer comme on le fait. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable, au lieu de se dire, on va continuer à consommer comme on le fait, à vivre comme on le fait, en étant 5 milliards au lieu de 10, est-ce qu'on ne peut pas se dire, on va être 10 milliards, mais on va vivre intelligemment et on va mieux répartir les richesses et on ne va pas détruire notre environnement et on va peut-être être dans une forme de décroissance. Est-ce que vous, ça vous semble envisageable ?
Moi, je pense que c'est envisageable. Mon avis, de pas forcément d'auteur de SF, mais juste d'observateur, moi, je pense que c'est trop tard. Et oui, on est en train de mettre des mécanismes comme ça, d'ailleurs. Hein. Mais je pense que ça touche trop peu de personnes pour que ce soit efficace. Parce que là, on parle de décennies. Et je pense qu'en quelques décennies, on peut pas... il faudrait que les 7 milliards de personnes fonctionnent comme ça. Oui, il y aura les élites occidentales et russes et chinoises et qui auront accès à des ordinateurs et qui auront accès à ça, qui pourront effectivement gérer ça de façon intelligente, la gestion de nos ressources intelligentes. Ça ne fonctionnera pas sur 7 milliards d'individus avant au moins 100 ou... Enfin, dans un temps suffisamment... je ne crois pas que ça fonctionnera dans un temps suffisamment réduit pour sauver les espèces en voie de disparition. Mais oui, c'est clairement ce qu'il faudrait faire. le réduire l'impact, réduire l'impact.
Mais on sait que c'est ce qu'il faudrait faire depuis des années. Je comprends votre cri du cœur, c'est le mien aussi. Mais on s'en va vers un goulot d'étranglement et s'imaginer que... L'autre métaphore, c'est qu'on s'en va dans un mur. Non, pas dans un mur. Le plus optimiste que je puisse être, c'est de dire on s'en va vers un goulot d'étranglement. Et si on s'imagine qu'on peut éviter les monceaux de morts qu'il y aura dans ce goulot d'étranglement, on s'illusionne. Et c'est pour ça que je parlais de triage tout à l'heure. On est dans une situation de guerre. Je suis navrée de vous déprimer, et on nous fait signe que c'est bientôt la fin.
La fin de la dépression.
La fin de la dépression. La fin de la dépression, pas du monde. Non. Depuis 50 ans, bon, moi je suis la vieille croûte du groupe, là. Depuis 50 ans, on voit ça arriver, je vois ça arriver. Et raisonnablement, maintenant, on n'a plus le temps. Et il va y avoir ce goulot d'étranglement. Et oui, on peut faire, on peut voter, on peut faire la révolution, le pouvoir est au bout du fusil et toutes ces sortes de choses. Pour obliger les décideurs à prendre les bonnes décisions, je ne vois plus que, malheureusement, des formes de violence. Je m'entends dire ça et j'ai envie de me flinguer. Bon, voilà.
Tiens, je vais en rajouter une. Oh, si, si. En tant que mère, j'ai fait 2 enfants. J'ai une terreur absolue de ce qui va leur arriver, de ce qui va leur arriver à leurs enfants. Et ça me réveille la nuit. Voilà.
Sur ces paroles joyeuses, si vous voulez, il y a un bar là-haut, si vous voulez noyer votre chagrin. Merci à vous trois. Et puis merci au public aussi, à la technique et aux bénévoles. Je pense qu'il y a peut-être quelques tables rondes plus joyeuses cet après-midi au programme, regardez.